Bon, voilà, je suis heureux d'accueillir donc Raphaël et Simonet pour cette dernière conférence du cycle sur qu'est-ce que le socialisme. Alors, Raphaël et Simonet est en fait de discipline linguiste et professeur de linguistique à l'université de Rome 3. Il a écrit un certain nombre assez impressionnants de livres, d'ouvrages en linguistique, mais il a aussi, à partir d'un certain âge, il a commencé à écrire des essais, quelques essais, la nuit, quand il avait des insomnies, semble-t-il. Et on comprend que, par exemple, le sujet qu'il traite, le dernier sujet qu'il a traité dans son dernier essai, puisse donner des insomnies ou des cauchemars, donc, c'est-à-dire l'état aujourd'hui de la gauche occidentale et son possible ou probable déclin. Donc, nous l'avons connu, heureusement, en français, pour les francophones, grâce à la traduction, grâce à cet article donc, paru dans le débat numéro 156, donc justement, une discussion autour de l'essentiel, je pense, du livre qu'il avait écrit, donc le dernier livre qui s'appelle « Le monstre doux », pourquoi l'Occident ne va pas à gauche. C'est ce livre aussi qui va être traduit chez Gallimard en français. Livre, semble-t-il, qui a été pas mal lu en Italie, mais qui n'a suscité très peu de réactions dans la gauche italienne et qui, semble-t-il, n'est pas prêt non plus, en tout cas ces articles de débat, de réveiller la gauche belge, qui par contre... a créé dans le Parti Socialiste français, je dirais, une espèce d'effet un peu d'électrochoc, hein, puisque Raphaël et Simonet son article a donné lieu à un certain nombre de discussions, et que dans le numéro 159 du débat, après le numéro 156, de nouveau, on a un certain nombre d'auteurs qui se sont remis à reprendre le fil du débat, et que, m'a-t-il dit, il a été invité en janvier par la Fondation Jean Jaurès pour discuter avec les cadres du Parti Socialiste français des hypothèses qu'il va maintenant nous exposer. Donc je vais lui laisser immédiatement la parole.
Merci bien. Permettez-moi tout d'abord de remercier M. Lacrosse pour m'avoir invité ce soir et de vous remercier tous et toutes pour votre présence aujourd'hui. Les antécédents de mon activité ont été illustrés très bien par M. Lacrosse. Je suis un linguiste, donc il faut que je vous mette en garde dès le début, parce que je peins en titre professionnel pour parler politique. Mais il y a aussi une autre mise en garde que je dois faire, et c'est que, malgré l'apparence, mon discours ne porte pas du tout sur la politique et le politique. J'ai l'intention de procéder par couches, et donc j'espère que vous verrez arriver à la dernière, c'est-à-dire à la quatrième ou cinquième, je les marquerai au fur et à mesure, que mon discours, mon souci n'est pas du tout politique, mais c'est plus profond que ça, parce que mon effort a été dans ce livre... celui d'identifier les causes des changements superficiels que l'on voit superficiellement dans la politique. Et alors, si vous m'acceptez malgré ces deux mises en garde, je peux commencer. Et en plus, si vous acceptez mon français qui, malgré sa, disons, fluidité, au fur et à mesure, il peut aussi démontrer des insuffisances. Alors, la première couche, c'est que presque en toute l'Europe, les partis de gauche ne sont pas au pouvoir, avec l'exception de l'Espagne, 2008, où d'ailleurs la force de ce parti paraît en discussion à chaque instant. Pour tout le reste d'Europe, tout récemment l'Angleterre, le gouvernement, le pouvoir n'est pas dans les mains de la gauche. Il y a bien sûr des signes contraires, par exemple la réponse des États-Unis à l'époque Bush, mais je crois que l'administration de Obama, même si on peut la considérer vue depuis l'Europe comme une administration de gauche, doit porter tellement de guillemets qu'il serait très difficile de la qualifier en tant que telle au sens européen de ce terme. En fait, l'Occident tout entier vire à droite, et ce qui pose, à mon avis, et c'est ça ma première considération, le problème de la gauche. Est-ce que la gauche, historiquement, a épuisé sa mission, a épuisé ses forces, ses énergies et son message, ou il y a quelque chose de plus difficile qu'il faut comprendre? Alors, la première couche, c'est de se rendre compte qu'il y a une crise importante de la gauche. Et ça se voit pas que par les résultats électoraux, mais plus encore par le fait qu'aucun des grands objectifs de la gauche n'est parvenu à se réaliser ou à pénétrer de lui-même en laissant des traces profondes dans la mentalité collective. Il est sûr que beaucoup des aspects du monde civilisé actuel, en Europe et ailleurs, sont des conquêtes de la gauche. Par exemple, les droits des travailleurs, la réduction, le contrôle du temps de travail, les congés payés, l'enseignement obligatoire, le suffrage universel étendu aux femmes et aux analphabètes, et indifféremment pour ce qui concerne leurs revenus, les droits politiques, la liberté fondamentale, etc., etc. Une partie importante de l'Occident provient des conquêtes de la gauche. Mais face à ces formidables acquis qui ont vraiment changé la face du monde, la gauche a été trop négligente, car à un certain moment, elle a cessé de souligner que les résultats que je viens de mettre en liste étaient tous son patrimoine à elle. Elle les a laissés sans père ni mère, comme s'il s'agissait de choses tout à fait indifférentes, des conditions naturelles plutôt que des conquêtes. En plus, il y a une quantité remarquable d'objectifs explicites de la tradition de gauche qui n'ont pas été réalisés du tout. J'en fais une liste rapide, par exemple l'augmentation du niveau moyen de l'instruction et de la culture. Il y a partout des zones d'analphabétisme intolérable qui paraissent ne pouvoir être remédiées d'aucune façon. Le plein développement de la science et la recherche comme mentalité commune, disons la naturalité, le fait que science et recherche sont des activités naturelles plutôt que des résultats à conquérir au fur et à mesure à chaque fois, par exemple. Ça se voit de toute évidence dans le cas de l'Italie où, en ce moment même, la recherche et l'activité intellectuelle avancée sont humiliées à chaque instant. La valorisation des énergies créatives et des intellectuels et des artistes, donc le rôle de la création dans la vie. La diffusion d'une mentalité rationnelle et laïque, pour ce qui est tout au moins des affaires publiques. La création d'une large conscience civique et solidaire, la diffusion d'un esprit universel de paix, la lutte contre la pauvreté et l'exploitation du travail, la réconciliation des contradictions sociales, la parité entre les hommes et les femmes, la propension à soutenir les plus faibles avec des mesures de solidarité, de redistribution des richesses, etc. Ça, c'est des objectifs, une liste qui pourrait continuer encore, d'objectifs typiquement de gauche qui n'ont pas été atteints du tout, à la différence des autres que je mentionnais tout à l'heure, et en plus qui n'ont pas créé des assises dans la mentalité générale. Parlons pas en plus du plus grand objectif de gauche à l'âge d'or, surtout de la création de ce qu'on appelait à cette époque-là l'homme et la femme socialiste, à laquelle personne, je crois, ne pense plus sérieusement, même dans son acception, disons, la plus faible et normale. À quoi est dû cet échec à mon avis, spectaculaire. Je crois qu'il y a des causes historiques, toujours relevant de la première des couches à travers lesquelles je voudrais vous porter. Le premier, c'est sans doute le fait que les expériences les plus importantes, les plus poussantes, les plus percutantes de la gauche au fil de l'histoire ont été des expériences de type communiste. Et que par conséquent, certains moments de leur trajectoire, toutes ces expériences, aucune exclue, ont exhibé le visage du régime misérable, oppresseur et criminel. Ce fait historique contre lequel personne d'entre nous ne peut lutter a créé des conséquences inimaginables, dont l'autre côté, disons, la droite, au sens large de ce terme, se sert toutes les fois qu'elle peut. Un des dictons les plus typiques et les plus obsédants de Berlusconi, c'est que ces communistes-là, c'est-à-dire l'opposition de son gouvernement, ne veulent que la terreur, la misère et la mort. C'est ce qu'il dit à tout instant. C'est une synthèse à la Berlusconi, bien sûr, de ce que c'est l'expérience de la gauche au pouvoir dans le siècle passé. D'autres facteurs, moins dramatiques et tragiques, mais qui n'ont pas été moins puissants pour ce qui concerne les faits qu'ils ont produits, ont opéré pour isoler les idéaux de gauche, ce qu'on appelait, vous le savez, les plus jeunes peut-être ne savent pas, les idéaux de la gauche. Ce qui les a endommagés, les a percutés, c'est par exemple la rhétorique édifiante alimentée pendant des décennies à propos des pays communistes. Vous en avez, pour ce qui est de la tradition francophone, une très belle histoire dans le communisme, une passion française, par mon ami Marc Lazare, qui décrit l'abus de cette rhétorique édifiante qui ignorait délibérément les crimes, les excès, les formes d'oppression que pratiquaient les régimes communistes, les mensonges effrontés produits à ce sujet. On a même défendu le régime de Pol Pot, on a même défendu par exemple en Italie, mais je crois aussi en France et en Belgique, j'imagine, le régime vietnamien, etc. Les formes d'exaltation avec laquelle leaders, militants et responsables politiques ont célébré en Occident ces régimes sans les connaître ou, encore pire, en les connaissant. Les mea culpa tardifs avec laquelle les dirigeants communistes, y inclus notre président de la République italien, a déclaré avec un retard de 60 ans qu'on s'était trompé et qu'on avait peut-être, ça et là, exagéré, etc. Et finalement, l'attitude que je considère comme horripilante, une partie importante de la gauche consistant à manifester, à exhiber, pour mieux dire, une sorte de supériorité, de différence par rapport aux autres, une sorte de, comme s'il s'agissait là d'une communauté radicalement autre, plus honnête, plus intelligente, plus active, plus sérieuse, plus instruite que les autres, etc. En Italie, il y a eu un livre intéressant qui s'appelle « Pourquoi la gauche est tellement antipathique ?» qui discute avec des données historiques et sociologiques intéressantes exactement ce problème. À ces facteurs s'ajoute, mais je crois et j'espère qu'il s'agit là d'un phénomène tout à fait passager, la décourageante médiocrité intellectuelle des groupes dirigeants qu'à la gauche, qui les a rendus incapables d'élaborer des modèles généraux, plus en Italie, en Espagne qu'en France, je ne sais pas, en Belgique, inaptes à prévoir certains risques, sinon des catastrophes, de la modernité et surtout aveugle face aux problèmes centraux de la modernité. Je voudrais vous faire, je l'ai fait de façon plus analytique dans mon livre, une liste des problèmes, des nœuds centraux de la modernité qui ont été ignorés même. Ils sont passés inaperçus par ces groupes dirigeants. Les plus jeunes en tireront, je crois, j'en suis sûr, une impression plutôt forte. On a ignoré, je parle des dirigeants de la gauche des différentes époques, l'intégration européenne, contre laquelle quelques partis de gauche ont même lutté. L'unification allemande, qui a trouvé sa résistance principale dans la gauche allemande. L'immigration de masse, qui n'a été pas perçue, et sur laquelle, par conséquent, on n'a pas une philosophie concertée, unitaire en Europe, dans la gauche. L'islamisme radical et le terrorisme associé à lui, la catastrophe écologique et démographique, la révolution numérique et digitale, complètement ignorée, la mondialisation en tant que telle, phénomène immense, qui a plus de 40 ans derrière lui, mais qui a été ignoré par les gauches de toute l'Europe, le réveil de la Chine et de l'Inde, les modes et les besoins culturels des jeunes générations qui constituent ces modes et besoins des éléments politiques plus forts que jamais, qu'on ne peut pas ignorer au niveau politique, l'intégrisme religieux, etc., etc. C'est une liste plutôt importante, plutôt attristante. Et la plupart des cas, c'est les journaux qui ont, disons, prévenu les gens de gauche, les dirigeants de gauche, que quelque chose était en train de se manifester, ça ou là, dans le monde. Les partis de gauche ont ignoré ou même résisté à ce phénomène-là, et en tout cas ont évité, n'ont pas pris la responsabilité d'élaborer des réflexions, des analyses, des projets pour répondre à ces phénomènes qui sont d'ailleurs les nôtres encore dans l'actualité. Alors, c'est une stratification, vous le voyez, de mouvements de nature différente, électorale, culturelle, planétaire, locale, etc., qui a convergé finalement dans la production de la crise, le déclin actuel de la gauche. Il y a eu aussi des phénomènes historiques d'importance planétaire sur lesquels je voudrais rappeler votre attention. Premièrement, entre les événements d'Hongrie et la chute du mur de Berlin, donc entre les années 60 et 90, s'est produit tout d'abord le déclin et puis l'extinction virtuelle de la composante communiste de la gauche. Ça, c'est un phénomène qui intéressait toute l'Europe, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Angleterre plus encore, les pays du nord de l'Europe, et successivement l'avènement du capitalisme globalisé consumériste, qui a provoqué des difficultés, des tremblements de terre aussi dans la composante socialiste. De cette manière, et à la suite de ces phénomènes historiques, culturels, en partie prévisibles, en partie imprévisibles, le récipient que nous appelons globalement la gauche est resté, à mon avis, quasiment vide, et personne ne sait plus bien quoi mettre dedans de manière plausible. Certains suggèrent que dans la recherche d'une nouvelle mission, la gauche devrait, dans les années 2000, se concentrer sur les droits des minorités, des femmes, des animaux, je ne sais pas de quoi et de qui d'autre. À mon avis, cette préoccupation est trop light, trop légère, pour engager les énergies de gauche qui existent tout de même en plusieurs endroits. Dans cette recherche d'un contenu nouveau, la gauche s'est vue obligée, dans différents pays d'Europe, d'alléger ses aspirations, de changer de marque et de mission, de changer d'orientation concrète, c'est-à-dire, en un certain sens, de mourir et se métamorphoser. Ce processus est absolument évident en Italie, où les formes messianiques qu'avait originairement la gauche, c'est-à-dire préparer le monde nouveau et l'homme et la femme socialiste, est complètement disparu, et les mouvements de gauche sont glissés dans un pragmatisme politique tout à fait dépourvu de principes. Il y a eu plusieurs formes d'allègement, disons, des positions de gauche. Par exemple, la version appelée centre-gauche en Italie, où l'élément de centre est constitué par le facteur catholique, démocrate chrétien, traditionnellement considéré dans l'histoire comme l'ennemi principal de la gauche, et maintenant absorbé comme un des facteurs essentiels de la composition résultante. Au Royaume-Uni fut inventée la formule de la troisième voie. Vous la connaissez, les plus jeunes aussi, je crois. Une solution tranquillisante qui théorisait, tout compte fait, une position intermédiaire entre l'extrémisme et le modératisme. Quelque chose d'intermédiaire où les forces du capitalisme seraient mises sous contrôle, tout en gardant l'effet propulseur du capitalisme lui-même. Toutes ces solutions, toutes ces versions allégées de gauche light, comme je l'ai appelé dans mon livre, ont la fonction essentielle d'éviter, de supprimer dans la gauche l'élément, disons, dur, qui pouvait susciter des réactions de peur, des réponses violentes même, qui s'étaient accumulées au cours de l'histoire. C'est pour ça que le mot d'ordre de toute cette opération de fusion semble être « il faut s'édulcorer avant de fusionner avec quelque autre chose ». L'Italie, en ce sens, constitue un modèle intéressant parce que c'est le premier pays en Europe où la gauche a cessé d'être gauche, même du point de vue nominal, en s'appelant centre-gauche, même si les anciens communistes continuent de s'appeler camarades. Et tout récemment, Bersani a déclaré que le terme camarade est encore actuel. Et en acceptant les catholiques comme élément fondamental de la chimie politique successive. Je ne sais pas si en Belgique quelque chose de pareil se passe, mais comme la composante catholique est importante ici aussi, j'imagine que quelque chose de pareil devrait être en marche du point de vue stratégique.
L'olivier.
Pardon ?
Ce qu'on appelle l'olivier.
L'olivier. Mais c'est la même dénomination qu'on avait en Italie, effectivement. Alors, ça, c'est la situation photographiée depuis un satellite, et ça c'est la première couche dont je voulais vous parler. La situation c'est d'un déclin généralisé de gauche européenne sur la base d'une série de motivations historiques, culturelles, aussi locales que planétaires. Deuxième couche. Qu'est-ce qui se passe entre-temps de l'autre côté? Qu'est-ce que font les autres? C'est-à-dire ceux que nous appelons génériquement la droite. Alors, je vais parler à partir de ce moment d'une droite qui ne coïncide pas du tout avec les droites historiques dont on connaît la typologie et les noms. La droite fasciste, la droite libérale, c'est une variété, une déclinaison. Une variété de déclinaisons du concept de droite, mais aucune de ces droites ne coïncide avec celle dont je veux parler. Je veux parler de quelque chose d'une agression d'ingrédients tout à fait nouvelle, qui n'a pas de nom en tant que tel, qui se trouve décrite dans plusieurs analyses, par exemple dans le beau livre Supercapitalism par Richard Reich, l'économiste et politologue américain, et que j'ai appelé provisoirement droite nouvelle ou néo-droite avec une certaine évocation du new speech, du new speak de, postulé par Orwell dans son roman 1984. Cette droite nouvelle n'est pas le fascisme, n'est pas le franquisme, n'est pas le nazisme. Même si parfois, pour des raisons tout à fait électorales, elle peut s'associer à des mouvements de ce type. Ces techniques pour isoler l'adversaire sont bien sûr de droite, mais ne comportent pas ni violence ni diffusion de sang. Ils se servent plutôt de la marginalisation professionnelle, du dénigrement, de la moquerie, surtout par les médias, d'infliction de dommages économiques, de persécution judiciaire. La droite nouvelle est à la page pour ce qui est de ses méthodes, de ses instruments, pour les images et les techniques de propagande dont elle se sert. C'est pourquoi je crois qu'elle a choisi de ne pas s'identifier avec un parti ou avec certains partis, avec un nom précis, exact et reconnaissable. Au contraire, avec le temps, elle a élaboré une mentalité, une idéologie qui flotte dans l'air, un ensemble d'attitudes et de modes de comportement que l'on sent sans savoir comment ils s'appellent, que l'on observe dans la rue dans nos mêmes comportements, à la télévision, dans les médias, dans toutes les arènes publiques imaginables. C'est en somme une culture diffuse et dispersé, plus qu'une force politique définie, mais cela ne fait pas qu'elle ne soit une force effective de la modernité. Dans mon article, j'ai mis en liste un certain nombre de traits de cette culture tirée parti, de cette culture diffuse qui forme partie sans le paraître. Tout d'abord, c'est l'expression directe du grand capital national et international. Donc il y a un élément capitaliste important, très important. C'est pourquoi, dans le livre que je viens de mentionner, Richard Reich a parlé de supercapitalisme, supercapitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme associé à cette force, c'est un capitalisme super de dimension planétaire, avec une force de propulsion et de pénétration qui n'épargne aucune des parties du monde, même les plus pauvres, et qui ne s'arrête devant quoi que ce soit. En plus, elle est technologique et financière plutôt qu'industrielle. Elle est conservatrice, sauf dans un domaine. Elle est intéressée en particulier par l'expansion et l'innovation de la consommation. Elle veut qu'on consomme, parce que sa vision veut que le marché et la consommation soient l'unique véritable mission du monde moderne. Elle est l'ennemie radicale de l'intervention publique dans les affaires des grands systèmes de services, écoles, universités, recherche, santé, postes et communications, soins aux personnes âgées, transport, construction et même les prisons. Dans les États-Unis, on commence à voir des prisons, des systèmes d'incarcération gérés par les privés. Et tout le monde sait que les questions concernant les prisonniers dans les territoires à présence américaine importante en Irak et en Afghanistan, étaient gérés et sont peut-être encore gérés par des particuliers. Et là, pour valeur publique, la consommation, le succès, le divertissement. J'y reviendrai dans quelques instants sur le concept de divertissement qui est essentiel de ma manière de voir. Malgré son apparence, elle est totalitaire dans sa désapprobation de l'adversaire et des règles limitant sa possibilité d'agir. Donc l'adversaire, ce n'est pas un élément essentiel de la dialectique politique, mais c'est plutôt un ennemi. C'est quelque chose dont il faut se débarrasser, n'importe comment. Elle est populiste, et donc elle fait souvent des appels au peuple, avec surtout l'effet fondamental du populisme, qui est celui de renvoyer au peuple ce que le peuple lui-même il veut. Donc le populiste, disons, absorbe du peuple ce que le peuple veut et le relance sous la forme de sa propre proposition. Elle ne reconnaît pas de classe universelle au sens marxien du terme. Je ne sais pas si les jeunes présents ici savent ce que c'est que la classe universelle dans la théorisation marxiste. Allgemeine Klasse, disait Marx, c'est la classe par rapport à laquelle les systèmes politiques doivent être, dans l'opinion de Marx, modelés. Et donc, dans sa manière de voir, c'était la classe ouvrière. Dans le monde moderne, il y a toujours une classe universelle par rapport à laquelle les systèmes politiques se modèlent, mais dans les vues de la Nouvelle Droite, il n'y a pas de classe universelle. Tout le monde est égal, car tout le monde a la mission fondamentale de consommer. Elle est très dure, cette nouvelle droite, dans l'affrontement des critiques idéologiques, mais elle repose de manière décisive sur l'utilisation des médias, de la communication et du divertissement déjà évoqués. Finalement, elle méprise la culture, la recherche, la création et la science, car l'activité intellectuelle avancée est en danger dans sa vision du monde. À moins qu'elle ne produise des applications et des profits, et pour ce qui est des applications, surtout des applications au domaine des médias et de la communication. Comme une telle conspiration de facteurs n'a pas de nom, Richard Reich a proposé le terme de supercapitalisme. Supercapitalisme. Moi, pour mon compte, en ignorant à cette époque-là le livre de Reich, j'avais proposé le terme d'ultracapitalisme. C'est peut-être une convergence intéressante. Ce qui est intéressant, et c'est Richard Reich qui le met en relief, c'est que dans cette vision du monde et dans cette organisation socio-économique, chez chacun de nous, il y a une sorte de dissociation. Le consommateur d'un côté, qui vise, c'est l'opinion de Reich, à faire de grandes affaires, et de l'autre côté, les citoyens qui visent plutôt à garder les droits dont ils disposent, dont ils jouissent. C'est une dissociation importante qui crée des conséquences qui apparaissent, qui jouent un rôle même dans ma vision des faits. Par exemple, la clientèle du supercapitalisme, sans s'en rendre compte, devient captive, comme l'on dit en économie, c'est-à-dire est fidélisée de façon dure à certains types de produits, de processus productifs, et se laisse prendre dans une spirale dans laquelle s'entremêle la publicité, les produits, le marketing, les facilités de crédit, le désir de fun et de vacances, etc., etc. Donc, de l'autre côté, ce n'est pas un parti qui vient de se former, mais c'est plutôt une culture généralisée, un paradigme socio-économique important, sans nom pour l'instant, qu'on peut, si l'on veut, appeler supercapitalisme. On en est à ce moment à la troisième couche. Confronté à la droite nouvelle, qui est intéressante, vive, attrayante, nous invitant à la consommation, aux fans, au divertissement, etc., il est indéniable que la gauche est poussiéreuse et hors du coup. parce que ces idéaux sont en déclin, et il y a bien des raisons pour ce déclin. Je mentionnerai là trois phénomènes cruciaux qui se sont réalisés durant les 20 dernières années du XXe siècle, et qui ont affaire directement avec les phénomènes de modification du côté de gauche qui se sont réalisés récemment. Primo, la dissolution de la classe ouvrière comme classe universelle, mentionnée tout à l'heure. Deuxièmement, la métamorphose culturelle du peuple de gauche. Troisièmement, la naissance de la culture globale liée au supercapitalisme, qui est cette culture de nature essentiellement despotique. Examinons, s'il vous plaît, ces trois facteurs analytiquement. Dissolution de la classe universelle. Il est bien évident à tout le monde, je crois, que la classe ouvrière ne constitue plus du tout la principale référence de la gauche en Europe. Il y a plusieurs facteurs qui ont affaibli le rôle de cette classe. Par exemple, le fait que les stratégies de délocalisation industrielle ont créé des masses ouvrières seulement dans les régions où celles-ci peuvent ne pas poser de problème. Donc, les délocalisations transportent la production et ses difficultés des pays chauds aux pays, disons, socialement plus froids et plus faciles. Un autre phénomène qui est évident dans les États-Unis, mais qui est en train de se manifester aussi en Europe, c'est que une partie de plus en plus importante des ouvriers sont des immigrés. Et donc des personnes dont la dangerosité syndicale, pour ainsi dire, et les prétentions sont plus réduites que chez les locaux. En plus, la classe ouvrière en tant que telle a accompli une évolution politico-culturelle cruciale. Fatiguée d'être et de se sentir comme une classe inférieure, d'accéder à des biens de consommation de valeur modeste, en somme, d'être la classe ouvrière au sens propre, elle a changé d'option et a commencé à se comporter et à apparaître comme la bourgeoisie qu'elle voudrait être. Donc, les ouvriers se métamorphosent en assumant tout d'abord les consommations, les comportements, les coutumes et les habitudes des bourgeois. C'est un processus qui a été décrit avec une précision absolument époustouflante par Pier Paolo Pasolini dans ses essais, ses articles, dans les années 70. Le prolétariat, en somme, s'est dissous et transfiguré, et il ne comprend actuellement que des exclus et des personnes sous contrainte. Des franges urbaines, par exemple, qui relèvent du lumpen prolétariat dont parlait Marx, et surtout les immigrés. Pour le reste, les ouvriers européens ne sont des prolétaires ni une classe ouvrière au sens traditionnel du terme. Comme conséquence primaire, la gauche a commencé à tenir caché l'argument classe ouvrière en tant que telle. Dites-moi si vous connaissez des programmes des partis de gauche en Europe qui la mentionnent de façon explicite comme élément portant de leur projet et de leur plan. En d'autres termes, la gauche a abandonné les ouvriers en tant que classe universelle en même temps qu'en tant référence politique première. Je dis de façon un peu pittoresque qu'on la tient cachée, ce n'est pas complètement faux, parce que si vous lisez par exemple le programme du Parti démocrate en Italie, vous ne trouvez pas une seule mention des ouvriers avec indiqué par ce terme exact. Et qu'est-ce qui a pris la place de la classe ouvrière dans les soucis de la gauche réformiste, si on les mentionne même plus? En bonne partie, il s'agit d'un mélange de classes moyennes et moyennes inférieures, de nature professionnelle et intellectuelle, représentée symboliquement par les enseignants, les professeurs. Il s'agit de diplômés, de titulaires de master, avec même, ça et là, des franges de haute bourgeoisie. Donc, il s'agit de col blanc. Il est très facile de reconnaître, du point de vue pratique, qu'une base sociale telle que celle que la gauche a acquise au fil du temps, c'est-à-dire des intellectuels, des diplômés, des titulaires de master, des professionnels, des intellectuels, de jeunes fréquentant des écoles supérieures, tout ça, est une base peu solide du point de vue de la fidélité sociale. Dans l'intervalle, en plus, deuxième facteur que je mentionnais tout à l'heure, le peuple de gauche s'est réduit dans de nombreux pays. L'électorat de la gauche est affaibli non seulement à cause des graves insuffisances des groupes dirigeants, mais en général parce que les idéaux de la gauche ne sont plus à la hauteur de l'époque. Ce terme, hauteur de l'époque, dans mes écrits, c'est une citation d'une variété de textes de José Ortega y Gasset, le grand essayiste espagnol conservateur des années de 20 à 50 du siècle passé, qui soutenait, à mon avis justement, que les idées politiques doivent être à la altura del tiempo, à la hauteur du temps, si elles veulent se faire reconnaître et pratiquer par quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il y a là qui n'est pas à la hauteur de l'époque? D'un côté, il y a une époque gaspillage de consumérisme supercapitaliste et de libéralisme. De l'autre côté, les idéaux de la gauche se présentent historiquement et factuellement de nature restrictive, pénitentielle et, si vous me permettez ce terme un peu fort, misérabiliste. Par exemple, si vous mettez en liste les objectifs principaux, vous vous en rendez compte. L'égalité. Qu'est-ce qui fait l'égalité? Du point de vue du supercapitalisme, ça limite l'expansion des prérogatives personnelles. L'équité fiscale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prive de sa propriété, perturbe surtout la consommation. La justice, elle impose des règles, des limitations. L'attention vis-à-vis des classes inférieures, elle gêne, perturbe sérieusement l'ambition de faire partie des classes supérieures. La lutte contre le nationalisme, elle limite la particularité des patries. L'austérité, elle limite le besoin de s'égaliser au niveau des consommations. En somme, l'acceptation des mécanismes de gauche, des mécanismes profonds de la gauche, n'est pas conforme aux soucis de la modernité, parce que les appels de la gauche sont les sacrifices, le renoncement, le transfert de sa propriété aux autres, ce qui est nommé normalement la redistribution. Ces idéaux, les mécanismes sous-jacents, c'est-à-dire l'esprit de renonciation, sont exposés depuis au moins 20 ans à la tourmente de la modernité, avec les énormes nouveautés que cela induit. Et la crise financière qui s'est emparée du monde entier dans les deux années passées et qui continue, tout en ramenant à la lumière certaines perspectives de la gauche, par exemple la nécessité de temps en temps de nationaliser des banques ou de contrôler le comportement des sociétés financières les plus importantes au niveau mondial, n'a pas été suffisante pour remettre les idéaux de la gauche au centre de la discussion. Donc, les idéaux de la gauche, dans leur formulation traditionnelle, ne paraissent pas intonés, pour ainsi dire, à l'esprit du temps, au Zeitgeist. Je passe à ce point à ma troisième couche, qui est déjà plutôt plus profonde que les précédentes, si je ne m'abuse. Parce qu'on ne parle plus là de politique, de mouvements politiques, de facteurs politiques, de comportements sociaux, etc. mais l'on parle de quelque chose que j'aimerais considérer comme un paradigme culturel, donc un système mental diffus, partagé par des communautés entières, qui forme des opinions, forme des croyances et oriente les comportements. Pour le décrire, dans mes écrits, je me suis servi d'un classique en prévu, c'est-à-dire d'un texte classique, La pensée conservatrice, de la démocratie en Amérique de Tocqueville, qui, à un certain moment, génialement, décrit avec des soucis tout à fait différents des miens. Ça, c'est évident. Il écrivait dans les années 30 du 19e siècle. Qui décrit ce qui pourrait se passer dans une situation de despotisme politique, avec un seul homme, une seule personne au pouvoir. Il décrit des effets d'une telle situation qui me paraissent parfaitement applicable à notre situation actuelle. L'espèce d'oppression, dit-il, dont les peuples démocratiques sont menacés, ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédé dans le monde. Je cherche en vain, moi-même, une expression qui reproduise exactement l'idée que je m'en forme et la renferme. Les anciens mots de despotisme, de tyrannie ne conviennent point. « Je vois, ajoute-t-il, une foule innombrable d'hommes, semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes, pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même pour lui seul, et s'il lui reste encore en famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus des individus s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. C'est une expression qu'on ne peut plus se permettre maintenant. Hein. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leurs héritages, etc. C'est un cadre plutôt impressionnant. Mais pas que pour la manière dont il est formulé, mais aussi pour son adhérence à la situation dans laquelle on vit tous en ce moment et à la description que je viens d'en donner. Ça ressemble de manière époustouflante au monde d'aujourd'hui où des immenses masses privées de leur autonomie sont conditionnées pour et par la consommation plutôt que pour l'austérité, pour la bonne humeur et les femmes plutôt que pour la réflexion et le repos, parlons pas de l'étude, pour la soumission plutôt que pour la liberté. C'est ce que j'appelle, et de là le titre de mon livre, le monstre doux. Il est un monstre parce que c'est une forme de despotisme. Mais comme le disait génialement Tocqueville, il est doux, il est affable, il est paternel. Il veut nous fixer irrévocablement dans l'enfance. Il veut qu'on se réjouisse. Voilà. Vous voyez que j'ai abandonné le terrain proprement politique. Je commence à entrer, disons, dans mon propre domaine, qui est celui de la philosophie de la culture. Alors là, je veux focaliser trois aspects qui me semblent importants et sur lesquels mon livre donne plus de détails. Et ces trois changements profonds, niveau quatrième couche, justement, qui ont eu lieu dans le cadre du monstre doux au pouvoir. Premièrement, la nécessité d'assurer au plus grand nombre de personnes des expériences agréables, procurant de la vitalité, favorisant le bien-être, mais surtout stimulant la consommation. Le domaine dans lequel cette préoccupation se manifeste avec l'évidence la plus forte est celui du temps libre et du divertissement. J'ai évoqué à plusieurs reprises le fun. Vous avez vu chez Tocqueville, le divertissement est également évoqué. Il y a deux siècles de différence. C'est le travail maintenant qui interrompt le divertissement et pas l'envers. Donc le rapport entre travail et temps libre est en train de se modifier profondément, à tel point que les différents types de travail, dans différents types de travail, on a introduit délibérément un élément de fun qui font partie du travail lui-même. Considérez par exemple un élément apparemment superficiel tel que la diffusion de la musique, reproduction musicale, dans n'importe quel endroit, y inclut les lieux de travail. Cette situation, c'est-à-dire rebalancement du temps libre vis-à-vis du temps de travail et métamorphose de l'évaluation sociale du temps libre par rapport au temps de travail, a altéré la distinction même entre le temps de travail et le temps du repos et a produit, c'est un vieux terme de Bartine, une carnavalisation de la vie qui se diffuse partout. Le fun est devenu une sorte d'obsession universelle, même du point de vue des administrations qui, assez souvent, se préoccupent elles-mêmes d'organiser le fun de leur personnel. Ça se voit avec toute clarté au Japon, par exemple, et dans les grandes compagnies des États-Unis. On le pratique à chaque instant sous des formes innombrables et à tous les niveaux sociaux. Par exemple, on crée des nuits blanches. On crée des structures de divertissement et de consommation financées par le public. La nécessité du fun soumet la planète entière à des processus d'exploitation continue. Donc il y a toujours des nouvelles découvertes de zones qu'on peut considérer classées, lancées comme des endroits de vacances, etc. Ça, c'est un domaine important sur lequel les sociologues et les philosophes commencent à réfléchir, mais qui me semble tout à fait à explorer de façon approfondie. Un autre domaine important sur lequel je ne fais qu'une rapide allusion en ce moment, c'est celui de la création de nouvelles passions comme conséquence du pouvoir de la nouvelle droite et, si vous me permettez d'employer ce terme, du monstre doux. De nouvelles passions se forment, certaines passions anciennes s'affaiblissent ou se déforment. Si vous confrontez par exemple les traités des passions du siècle du XVIIIe siècle qui abondaient à cette époque-là, René Descartes en a écrit un très important lui-même, et le confrontez avec les passions qui sont en vogue en ce moment, vous trouvez tout de suite que au moins deux passions sont entrées en crise grave. La honte et la compassion, la sympathia des Grecs. La honte, c'est-à-dire la capacité de considérer impropre certains comportements. Il n'y a plus de comportement qui soit considéré comme impropre dans la société avancée. Et même le degré d'avancement d'une société se considère comme proportionnel inversement proportionnel à la quantité de choses qu'on peut considérer comme impropres. Je ne veux pas faire jouer le rôle d'un moraliste, mais il est évident à tout le monde que l'exhibition de la nudité, par exemple, comme phénomène moderne, c'est un aspect, c'est une conséquence immédiate de la crise de la honte comme passion sociale. À cause de ce fait, s'est imposée l'ambition de freiner ou de vaincre dans un seul coup la laideur, la vieillesse et la maladie. Et de là, la crise aussi de la compassion, la capacité de s'identifier dans les détresses des autres. La recherche extrême du bien-être physique, la wellness, et de la perpétuation de la jeunesse, c'est-à-dire la fitness, ont été décrites par Zygmunt Bauman, le grand sociologue polonais-anglais, comme l'effet immédiat d'une crise de la compassion. Étranger, dit-il, est une inhabilitation parce que cela représente la limitation des désirs, la modération des besoins, l'insensibilité à la séduction du marché. En somme, étranger est un anathème dans la société des consommateurs. Troisième volet de ce mouvement généralisé à un niveau profond comme conséquence du paradigme culturel de la nouvelle droite, l'affaiblissement de la capacité à distinguer entre réalité et fiction. C'est un volet tout à fait différent du précédent, parce que le précédent concernait les passions, celui-ci, ça concerne les capacités cognitives. Mon opinion, c'est que les grands changements de Zeitgeist affectent également au niveau cognitif. Notre manière de connaître, de reconnaître, d'assumer des connaissances est en train de changer comme conséquence du changement profond des paradigmes. Ce phénomène, d'ailleurs, avait été signalé dans les années 60 par Guy Debord. Tout le monde connaîtra son essai intitulé « La société du spectacle » qui, malgré quelques bizarreries d'époque entremêlées au texte, contient des perceptions que je trouve exceptionnellement pénétrantes de la modernité. Par exemple, Debord dit: la réalité surgit dans le spectacle, et le spectacle est réel. Dans le monde réellement renversé qu'est le spectacle, le vrai est un moment du faux. Je trouve formidable cette formulation, parce que à l'époque où le texte était écrit, la télévision et les médias n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui. Et la falsification du vrai qui se convertit dans un moment du faux, c'est un effet immédiat de la multiplication des moyens de reproduction des images. Jean Baudrillard, 10 années plus tard, a rajouté en inventant la métaphore du crime parfait pour décrire la télévision. Ce que la télévision aurait tué, c'est simplement la réalité. Née comme manière directe de faire voir les choses, la télévision est devenue, au fil du temps, la façon la plus explicite, la plus puissante pour éliminer la réalité des choses et montrer des choses fausses comme si elles étaient vraies. Le faux déborde sur le vrai, l'enveloppe et le dévore. C'est une formule intéressante que j'aimerais, moi, adopter. Et si vous y réfléchissez, vous vous rendez compte assez facilement que le numérique cache le travail, parce que le numérique, le net, le web, en somme, qu'est-ce que c'est que ça sinon une représentation généralisée de choses possiblement inexistantes comme réelles. Je ne dis pas d'autre chose là-dessus, mon livre est plus abondant sur ces sujets que je considère comme fondamentaux, parce que quand on modifie, quand on affecte les processus, les procédés, les processus cognitifs, on est vraiment au fond de l'affaire. Je crois qu'on ne peut pas arriver à un niveau plus compliqué, plus délicat que ça. si le monde de la modernité est caractérisé, entre autres choses, par des traits semblables, c'est-à-dire changement des passions, changement de la perception de la distinction entre réalité et représentation, changement du rapport et de la balance entre le temps libre et le temps occupé, je crois que ce monde est un monde de droite. Une droite nouvelle, bien sûr, médiatique, mondialisée, consumériste, avec, comme le prévoyait génialement Tocqueville, un air doux et affable. Et personne d'entre nous est à même d'échapper à cette atmosphère de droite, parce que tout le monde est directement impliqué, directement lié, associé. Chacun d'entre nous a affaire à ce monde médiatisé où les passions se bouleversent et la relation entre réalité et imagination est complètement modifiée. Ça, c'est le monstre doux auquel fait référence le titre de mon livre, et c'est, vous le comprenez à ce moment, la raison, à mon avis, profonde des changements superficiels qui affectent la gauche. C'est-à-dire, la gauche a affaire là, non plus avec des partis politiques en tant que tels, reconnaissables, avec une adresse postale, avec des bâtiments, des sièges, des inscrits, mais a affaire plutôt avec un paradigme culturel généralisé, profond, pénétrant, percutant, attrayant, qui a été inventé, je ne sais pas si délibérément ou par hasard, par la nouvelle droite, et qui est, pour l'instant, le nôtre. Je suis en train de m'approcher de la conclusion de mon discours. Si la gauche a perdu, pour l'instant, on l'espère, la capacité de donner forme au monde, faut-il se rendre peut-être à l'idée qu'une forme de gauche n'est même pas comprise parmi les formes possibles que peut prendre le monde? En d'autres termes, le monde est-il intrinsèquement de droite? Et le fait qu'on s'efforce de le transformer en un monde de gauche est-il une opération contre nature, au sens littéral du terme? Je crois que c'est ça la question, si vous voulez, un peu paradoxale, mais pas sans fondement, qu'il faudrait se poser. Alors, à ce point de mon raisonnement, je me suis efforcé d'établir une analogie qui me semble pertinente entre les attitudes de gauche, les attitudes de droite, pardonnez-moi, et certaines attitudes de l'enfance, telles qu'elles résultent des études sur la psychologie de l'enfant. Et là, j'ai formulé dans mon livre cinq postulats de la droite, que j'ai formulé de façon un peu sérieuse, en y associant à chaque postulat une formulation un peu plus maniable, qui me paraissent être également valables pour ce qui concerne les enfants. Premier postulat, le postulat de supériorité. Moi, je suis le premier et tu n'es personne. Toutes les études sur le développement des enfants documentent que l'enfant, dans la première phase de son développement, se présente exactement de cette manière. Moi. C'est le moi qui se pose et s'impose. Successivement, le postulat de propriété. Ça, c'est à moi et personne ne peut y toucher. Séparation des objets en les miens et ceux des autres. Le sens de propriété qu'ont les enfants est fortissime, tout le monde le sait. Une partie importante du processus d'éducation consiste justement à leur faire comprendre qu'il y a les autres qui ont leurs choses à eux et dont donc on ne peut pas revendiquer la propriété. Postulat de liberté. Je fais ce que je veux et de la façon dont je veux. Postulat de non-ingérence de l'autre. Ne t'en mêle pas de mes affaires. Et finalement, postulat de supériorité du privé sur le public. Des choses de tous, je fais ce que je veux. Disponibilité complète. Voilà, je fais cette. C'est une formulation faite pour provoquer. Je ne sais pas si j'y arrive avec vous. Je vous vois là tellement sérieux et concentré que je ne suis pas sûr d'avoir réussi à injecter un élément de provocation dans mon discours pour être avare. Mais de toute façon, c'est une manière, la mienne, de formuler sous forme de postulat les aspects qui distinguent profondément une attitude de droite vis-à-vis d'une attitude de gauche. Qu'est-ce qu'on fait à gauche pour chacun de ces postulats? Il est assez facile de les traduire dans des positions de gauche pour se rendre compte de la profonde contre-naturalité des attitudes de gauche en tant que telles. Voilà. Au postulat de supériorité, moi je suis le premier, tu n'es personne. La gauche oppose celui d'égalité. Tous sommes égaux. Au postulat de propriété, ça est à moi et personne n'y touche. On oppose le postulat de redistribution des ressources. D'un certain limite, ma propriété peut être redistribuée aux autres, et aussi la tienne peut être redistribuée à moi. En particulier aux pauvres faibles, quelque chose de plus riche peut être tranquillement donné. Voilà, c'est une différence radicale, parce que là c'est le postulat de propriété, ici c'est le postulat de privation de ce que j'ai, ou de ce que tu as pour le donner aux autres, à moi, si tu es le plus riche, toi, et vice-versa, si le plus riche, c'est moi. Au postulat de liberté, je fais ce que je veux, on oppose le postulat d'intérêt public, qui dit les droits des individus ne peuvent pas endommager l'intérêt public. Donc le public, c'est plus important que le particulier. Au postulat de non-ingérence, ne t'en mêle pas de mes affaires, on oppose le droit d'ingérence pour l'intérêt général. Les intérêts des individus sont limités par l'intérêt public. Et finalement, au postulat de supériorité du privé sur le public, on oppose une négation complète. Quoique les particuliers aient des prérogatives et des droits bien définis, le public prévaut. C'est une différence qu'on pourrait approfondir, on pourrait la dramatiser, la discuter, l'argumenter, mais c'est une synthèse un peu drastique, je l'admets volontiers, de ce qu'on sait, de ce qu'on théorise sur l'opposition entre idéologie de centre et idéologie de gauche. Bien sûr, la droite se présente sous plusieurs formes, il y a la droite fasciste et la droite libérale, mais il s'agit quand même de deux déclinaisons de la droite, comme de même qu'il y a la droite staliniste et la droite réformiste. Mais les postulats, sauf des variations locales, sont plus ou moins les mêmes.
La gauche,
pardonnez-moi. À quoi ça me sert, cette opposition radicale que j'emploie pour m'approcher de la conclusion de mon discours? S'il est vrai que les positions de gauche sont des positions qui contrastent des attitudes naturelles et donc sont étymologiquement contre nature. Je ne dis qu'étymologiquement, que ça soit clair. Alors, il faut un effort pour être de la gauche. Tandis qu'il ne faut aucun effort pour être. Il faut un effort pour être de la droite. Tandis qu'il ne faut aucun effort pour être la gauche. Voilà. Je me corrige. Il faut un effort pour être la gauche, tandis que pas d'effort est demandé pour être de droite. On est naturellement de droite. L'enfant est un petit homme de droite. L'éducation, la nôtre tout au moins, s'efforce de le déplacer graduellement sur des positions relativement de gauche. Il y a des cas où cet effort ne réussit pas. Si vous prenez notre président Berlusconi, par exemple, il est tellement enfantin dans l'affirmation systématique de tous mes postulats de droite. Tous ces hommes répètent, et lui-même répète à chaque instant, tous les postulats de droite que je viens de formuler. Peut-être je les ai formulés sur lui, je ne sais pas, de façon consciente. Il est un modèle, blague mise à part, intéressant, de position de droite formulée de façon infantine, mais tout à fait candide. Alors, si ça c'est vrai, ça veut dire qu'être de gauche, ça comporte un effort important. La métaphore que j'emploie là, c'est celle d'un essor tenu sous tension. Être de gauche comporte, quand s'efforce de tenir sous tension cet essor, tandis qu'être de droite comporte que l'essor est laissé à lui-même et peut faire ce qu'il veut. Conclusion de mon discours. D'ailleurs, Ortega y Gasset, que j'ai mentionné au début de mon discours, il disait quelque chose de pareil, pas au sujet de la gauche, mais au sujet de la démocratie libérale, imaginez-vous. Dans un de ses essais, il disait « Il était invraisemblable que l'espèce humaine fût parvenue à une attitude si belle, il parle de la démocratie libérale, si paradoxale, si élégante, si acrobatique, si antinaturelle. C'est pourquoi il n'est pas extraordinaire que cette même espèce humaine se décide tout à coup à l'abandonner. C'est un exercice trop difficile, trop compliqué pour que le libéralisme puisse se maintenir sur la terre. Si vous remplacez le terme libéralisme avec le terme de gauche, vous avez exactement la même formulation. C'est pour ça, je crois, que d'un côté, on comprend mieux, j'espère, les raisons du déclin de la gauche, et de l'autre côté, on comprend aussi que pour un relancement de cette partie importante du monde, il faut une énergie, une capacité d'imaginer des horizons tout à fait nouveaux, une fantaisie créatrice, une capacité de projeter et de se poser face aux problèmes de la modernité qui soit toute finalement à la hauteur de l'époque. Voilà, je termine. Merci de votre attention.